Ça demeure, c'est certain, ça arrivera. Ce que tu as cru, parce que la parole te le promet. Oh, apprends à croire sans le voir. Confie-toi en Dieu, ton cœur. Il ne te décevra pas. Ça demeure comme cela est écrit dans la parole. Comme cela est écrit, laisse-le ainsi. Une parole. Qui est ancré dans ton cœur. Tu la verras s'accomplir en son temps. Sa demeure, la foi finira par triompher. Même si tout semble s'y opposer, ô cœur, crois seulement, tu ne succomberas pas. Celui en qui tu te confies est le héros de la victoire. Ça demeure ainsi. Tu ne dois pas longtemps te demander par quel chemin ton Dieu te conduira. Il peut déjà nous porter dans ses bras de père, même si nous ne ressentons pas directement sa présence. Sa demeure, tu peux faire confiance au Seigneur. Aussi sombre et obscur que puisse être ce qui t'entoure, tu peux voir dans la foi le secours du Seigneur. C'est pourquoi tiens ferme, car ça demeure ainsi. Chers frères et sœurs, nous vous saluons tous très chaleureusement ici depuis Zurich, vous tous qui êtes maintenant connectés avec nous dans le monde entier et qui écoutez la prédication de Frère Frank et recevez la même bénédiction que celle que nous recevons également aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à l'écoute de cette prédication de Frère Frank. Comme introduction, permettez-moi de lire une parole d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, verset 8, il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties ou de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Oui, bien-aimés frères et sœurs, faisons de cette parole un sujet de cœur, afin que nous nous portions les uns les autres dans la prière, que nous nous tenions les uns pour les autres, que nous prions les uns pour les autres, et lorsque quelqu'un est dans la détresse, que nous l'aidions, que nous lui prêterons assistance, et que nous nous supportions les uns les autres comme cela est écrit ici. Ce n'est pas toujours facile, mais je vous demande avec amour que vous vous teniez tous les uns les autres afin que ce corps de Christ puisse parvenir à son accomplissement. Portez-vous les uns les autres dans l'amour, comme nous aussi nous prions pour vous, priez vous aussi pour nous, afin que nous soyons gardés dans l'amour et dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, qu'il nous unisse fermement dans l'amour, qu'il nous équipe de son esprit, de sa puissance en toutes choses. Prions maintenant ensemble. Fidèle Père Céleste, nous te donnons toute la gloire, toute la louange, toutes les actions de grâce pour de telles précieuses paroles que nous venons de lire. Oui, c'est toi qui assemble le corps. C'est toi qui édifie ton Église. Et nous te demandons, Seigneur, fais de nous des pierres taillées pour ton édifice. Seigneur, taille-nous encore durant ce temps de grâce, afin que nous soyons intégrés comme des pierres convenables. Nous te le demandons, bénis-nous aujourd'hui, enseigne-nous de ta parole et sois présent en toutes choses. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire, les actions de grâce, la révérence dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus.
Amen.
Amen. Amen. Remercié soit le Seigneur de ce que la rédemption ne doit pas se produire, mais elle s'est accomplie. Et que nous pouvons venir à notre Dieu comme des rachetés, des affranchis, comme des hommes qui ont reçu le pardon. Et nous pouvons dire « Abba Père » dans l'assurance qu'il nous exauce. Aujourd'hui aussi, nous voulons nous tenir dans le calme devant lui, un calme intérieur. Nous voulons nous détacher de tous les soucis du quotidien, de tous les problèmes qui nous préoccupent certainement et qui pèsent sur nous, afin de vivre devant le Seigneur ou d'expérimenter devant le Seigneur un temps de rafraîchissement, de méditation, d'édification et de fortification. Quant au dernier jour passé à Johannesburg, la situation entre les Blancs et les Noirs est un peu agitée. Mais ce n'est pas tout. Sur le plan doctrinal également, il y a peu de pays où la prédication soit si déformée qu'en Afrique du Sud. Même des personnes se réclamant du message croient les choses les plus impossibles qui existent. Le Seigneur est déjà revenu, les noces ont déjà lieu, il n'y a plus de grâce, Branham le Fils de l'homme et bien d'autres choses encore. Pendant les dernières années, j'ai rarement dû intervenir avec autant de fermeté que là-bas en Afrique du Sud. Vous savez que lorsqu'il s'agit de la défense de la parole, non pas de ma défense, je n'ai pas besoin de me défendre, mais lorsqu'il s'agit de la parole, alors j'estime que c'est ma tâche. C'est simplement ma tâche, ma responsabilité. Dans ces moments-là, je ne veux pas porter le manteau sur les deux épaules pour faire plaisir à certains. Je préfère encore l'enlever complètement et le jeter. Là aussi, Dieu m'a également accordé le courage de dire ce qui devrait être dit et de remettre chaque chose à sa juste place. Il s'agissait principalement d'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7, que ces personnes considèrent comme accomplies depuis 1963. J'ai alors déclaré devant toute l'Assemblée que Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 6 n'a pas encore ou n'a jamais été abordé jusqu'à ce jour et encore moins accompli. Puis j'ai dit, ainsi parle le Seigneur dans sa parole. Il y a des choses que je ne m'attribue pas à moi-même. Mais il y en a que je sais avec une certitude absolue. Ainsi est la vérité. Et il ne peut pas en être autrement. Il en est de même pour 1 Thessaloniciens chapitre 4. Selon certains, une partie de ce chapitre serait déjà accompli. Le Seigneur aurait quitté le trône de grâce et serait déjà descendu. Avec l'aide de Dieu, j'ai pu aussi démontrer très clairement par la parole que 1 Thessaloniciens chapitre 4 n'a, lui non plus, même pas encore commencé à s'accomplir. pas un seul point n'en a ni encore réalisé. Ce qui se passe actuellement correspond principalement à Matthieu 25. Voici l'époux aller à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Aujourd'hui, c'est le temps où l'on réveille les vierges, où l'on nettoie les lampes, où l'on les remplit, on remplit les vases d'huile, afin que rien ne manque lorsque le Seigneur viendra. Mais si quelqu'un me dit que le Seigneur est déjà venu, alors je lui réponds, s'il était déjà venu, je ne serais plus ici. Car lorsqu'il viendra, je partirai. Et cela est parfaitement juste. Lorsqu'il reviendra, nous monterons à sa rencontre. Nous irons à sa rencontre dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce qui est devenu grand pour moi pour la première fois, avec une telle clarté concernant Matthieu 25, en les comparant avec 1 Thessaloniciens 4, permettez-moi de vous le lire. Matthieu 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9, les sages répondirent, « Non. » Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, Matthieu 25. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermé. Cette parole est certainement l'une des paroles les plus claires, mais aussi l'une des plus solennelles lorsqu'il est question de la préparation de l'Église épouse et de la préparation de ceux qui désirent participer à la première résurrection, à la transformation et à l'enlèvement de ceux qui veulent réellement atteindre le plus grand but que Dieu ait jamais placé devant les hommes. Ils doivent faire tous leurs efforts afin que rien ne leur manque. Ici encore, une distinction est faite entre les lampes et les vases. Les vases remplis d'huile sont également indispensables afin que l'on puisse toujours refaire le plein. Toutes les ménagères et tous ceux qui vivaient autrefois en campagne le savent, qu'il s'agisse des lampes à pétrole ou des lampes à huile, il fallait toujours les alimenter la mèche en huile, nous le savons tous. Et tous ceux qui ont encore connu ces lampes savent également que le verre devait être nettoyé de temps à autre, afin que la lumière puisse à nouveau briller clairement. Ainsi, le Seigneur utilise des exemples de la vie quotidienne, des exemples que chacun peut comprendre. Et voici la question. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, lorsqu'il est question des lampes, cela peut parler de l'illumination, d'être éclairé, témoigner que Dieu nous a accordé la lumière, que nous soyons nés de nouveau, car le mot « vierge » signifie en lui-même « pur, saint, intouché ». Ce mot désigne donc des personnes nées de Dieu, consacrées au Seigneur, qui peuvent dire comme Marie, « Je ne connais point d'homme », selon Luc 1, verset 34. Des personnes qui ne sont pas simplement des méthodistes baptistes et puis qui passent d'une assemblée à une autre pour chercher leur bonheur ou leur salut, mais des personnes qui viennent à Dieu, qui expérimentent qui font leur expérience personnelle du salut avec le Seigneur, et alors elles n'ont plus besoin de personne d'autre comme médiateur, car elles ont trouvé le médiateur et l'avocat Jésus-Christ. Elles sont parvenues jusqu'à lui et ont reçu la paix avec Dieu, comme il est écrit, paix à celui qui est loin et paix à celui qui est prêt. Éphésiens 2, verset 17. Nous sommes reconnaissants pour cette lumière que Dieu nous a accordée par grâce. Mais nous avons besoin de l'huile dans les vases afin de pouvoir constamment en rajouter. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de la cruche d'or dans laquelle furent déposées la manne, afin que la verge d'Aaron, comme souvenir de la manière surnaturelle dont Dieu avait nourri son peuple pendant 40 ans. Hébreux 9, verset 4. Puisque dans les deux passages, il est question de cruche ou de vase, cela mérite notre attention. Permettez-moi de lire la parole d'Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, à partir du verset 4, peut-être avec le verset 3. Hébreux 9, verset 3. Derrière le second voile, Hébreux 9, verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Nous remarquons que plusieurs éléments étaient réunis ici. Pas seulement une chose. Ici, il s'agissait... Ici, il ne s'agissait pas d'une seule chose. Il y avait la confirmation divine. Et à cette époque, parmi les Israélites, on disait, est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? Vous connaissez cette histoire. Chaque tribu prit un bâton desséché. Et voilà, Dieu déclara que le bâton qui fleurirait et porterait des fruits serait celui de la tribu qu'il avait choisi pour accomplir le service devant sa face, en Nombre 17. Vous connaissez tous cette histoire dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que Dieu désigna la tribu sacerdotale. Et dès lors, tout le peuple sut à quoi s'en tenir. Alors, lorsqu'il est écrit ici dans Hébreux 9 que les tables de l'Alliance ainsi que le vase contenant la manne se trouvaient ensemble dans l'arche, alors nous devons comprendre que Dans l'ordre divin, plusieurs choses marchent ensemble. Nous croyons que Dieu nous a réservé la manne cachée et nous croyons davantage encore. Nous croyons qu'il nous a accordé par grâce l'accès à ce qui était resté caché. Cela implique aussi que le Seigneur a envoyé son serviteur et prophète. Vous le savez, je ne prononce pas très souvent son nom, mais lorsque je le fais, c'est avec une profonde émotion et avec une grande reconnaissance. Je ne fais pas partie de ceux qui utilisent si simplement ou facilement le nom de notre bien-aimé frère Branham pour toutes sortes de choses possibles ou impossibles. Pour moi, un tel homme de Dieu est inséparable de la mission que Dieu lui a confiée, à savoir ramener toutes choses à l'état original ou rétablir toutes choses. Lorsque les frères en Afrique du Sud m'ont dit que le Seigneur est déjà réellement venu, partout on prend les photos de lui, ici en couleur, ici en noir et blanc et ainsi de suite, j'ai simplement répondu, ce n'est que lorsque l'Église sera enlevée que le Seigneur nous aura pris auprès de lui comme son épouse pour les noces et que le ministère des deux prophètes aura commencé puis sera achevé après 3 ans et demi. Ce n'est que là que les 144 000 se tiendront sur la montagne de Sion. C'est alors qu'il se révélera à eux afin qu'ils regardent celui qu'ils ont percé. Et alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, selon Zacharie 12, verset 10. Et je pose parfois cette question. Qu'est-ce qui, selon vous, s'est déjà accompli de ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 10, versets 1 et 6? Et si les gens sont honnêtes, ils doivent reconnaître rien. Parfois, je suis un peu sévère et j'ai demandé à l'un d'eux, « Quand as-tu cru? Quand es-tu venu à la foi? » C'était un prédicateur qui avait une très haute opinion de lui-même. Je lui ai demandé directement, « Quand est-ce que tu t'es converti? » Et il me répondit, « 1974. » Et je lui dis, « Dans ce cas, tout était déjà trop tard pour toi. » Si selon toi, le Seigneur a quitté le trône de grâce en 1963 et est déjà descendu, alors que toi, tu t'es converti en 1974, alors de toute façon, ça veut dire que toi tu es dehors. Et que voulez-vous faire parfois? Il faut bien à un moment donné, dire certaines choses aux gens de manière claire afin de réveiller un peu leur intelligence. Car il est écrit que dans les derniers jours, des hommes ayant l'esprit corrompu et ainsi de suite, selon 2 Timothée 3:8, quelqu'un pourrait penser que cela ne concerne que les hommes politiques. Ne vous y trompez pas. Les esprits corrompus parmi les politiciens ne sont pas ceux qui me causent le plus de soucis. Ce sont les esprits corrompus parmi ceux qui prétendent croire le message et tout étant eux-mêmes désordonnés et en répandant partout le désordre. Sur leur chemin, il ne reste rien d'intact. Et pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes désordonnés. Ils n'ont jamais pu mettre les choses en ordre parce qu'ils n'ont pas accepté de se laisser eux-mêmes mettre en ordre. Il existe un ordre divin auquel nous devons nous soumettre. Et si nous n'entrons pas dans cet ordre divin, nous ne pouvons jamais placer correctement les œuvres de Dieu. Cet ordre divin commence par chacun de manière personnelle. Ce n'est qu'alors que tout ce qui se passe autour de nous peut être replacé sans difficulté dans le plan de Dieu. Revenons maintenant à ce passage. Je vais vous le relire afin qu'il soit définitivement gravé dans vos cœurs, si je peux le dire ainsi, surtout à l'intention de ceux qui sont encore, oui, tourmentés ici et là par les doctrines de cet tonnerre et autres enseignements. Sachons une fois pour toutes que 1 Thessaloniciens chapitre 4, jusqu'à cette heure, n'a pas encore commencé à s'accomplir en ce qui concerne l'histoire du salut. Il n'a pas encore été abordé, encore moins accompli. Je vais lire lentement 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et je vous prie d'accorder la plus grande attention. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Je m'arrête ici. Et savez-vous pourquoi je m'arrête ici? De quel groupe de personnes est-il question ici? Il s'agit des morts en Christ. De quel groupe de personnes est-il question dans Matthieu chapitre 25? Je vous en prie. Il s'agit des vivants, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 25, il est question des vivants, du message adressé aux vivants. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Le cri de Matthieu 25 retentit ici sur la terre. Ici sur la terre, il devient encore et encore plus fort. C'est ici que l'on constatera que l'huile manque. C'est ici que les lampes sont nettoyées, préparées, et que les vases sont remplis. Oui, c'est ça, précisément le temps de l'appel à sortir et de la préparation dans lequel nous nous trouvons actuellement. Voilà la grande différence entre Matthieu 25 avec Matthieu 25. Ce chapitre décrit l'état des choses immédiatement avant le retour de Jésus-Christ. Verset 1, Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Matthieu 25, 1. Ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il n'est absolument pas question des vivants. Et cela, il faut le savoir. Et lorsque nous le savons, alors nous pouvons répondre à tous les frères des sept tonnerres par un véritable tonnerre de la parole du Seigneur, afin que toute chose soit pleinement éclairée. Le zèle de la maison, de ta maison me dévore. Selon Jean 2, verset 17, ce n'est pas seulement parce que Dieu m'a confié cette tâche et cette responsabilité. C'est aussi parce qu'il m'a fait ainsi et je ne peux pas supporter le mensonge et la parole de Dieu et la vérité. On ne peut pas la présenter autrement et on ne peut pas la sortir de son contexte. Je dois rester exactement là où elle est. Je relis encore une fois 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors, il s'agit de ceux qui dorment ou qui sont morts. Et maintenant, il est dit ce qui arrivera alors. Verset 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et je demande, alors très directement, si le Seigneur est venu, où sont donc les morts en Christ qu'il devait ramener avec lui? Est-ce que vous les avez vus? Personne ne les a vus. Les avez-vous entendus? Personne ne les a entendus non plus. Alors qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Vous n'avez rien vu? Vous n'avez rien entendu, mais on raconte beaucoup de choses. Alors, mais pas avec moi. Nous sommes des hommes qui ne sont pas destinés à la tromperie. Nous avons été engendrés par la parole de vérité. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit et par la parole afin de rejeter tout mensonge, d'être entièrement sanctifiés dans la vérité et donner raison à Dieu en toutes choses. Car il est encore écrit que Dieu, au contraire, soit reconnu comme vrai et tout homme pour menteur, selon Romains 3, verset 4. Et les meilleurs menteurs sont justement les prédicateurs. Mais, oui, que Dieu fasse grâce. Car il transforme la vérité en erreur. Il la déforme afin d'en fabriquer autre chose. Je poursuis la lecture. Retenons bien ceci. De même que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de la même manière, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est parfaitement clair. Lorsque le Seigneur viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Peut-être pouvez-vous maintenant deviner ce que je veux dire. Lorsque frère Branham était encore vivant, il avait eu une vision. Ou plutôt, je crois qu'il fut transporté en esprit. Je crois que vous connaissez tout son témoignage. Il a vu son épouse couché sur le lit, il fut transporté au-delà du rideau du temps, il vit des millions de personnes revêtues de blanc, toutes jeunes, toutes belles, et permettez-moi en tant que vieil homme, je le dis aussi, n'est-ce pas? Tout était beau, âgé d'environ 17 ans ou 18 ans, alors nous pouvons nous réjouir nous aussi, car nous serons de nouveau jeunes et nous n'aurons plus besoin de marcher avec les cannes. Quoi qu'il en soit, frère Branham vit cette foule innombrable. Il décrit les femmes et les jeunes filles. Elles avaient les cheveux longs, tombant librement sur le dos, de différentes couleurs. Les frères avaient un visage doux et les cheveux courts. Et tous venaient vers lui en disant, « Our precious brother, notre bien-aimé frère, jeune fille et homme l'embrassaient, puis passaient et les autres arrivaient encore. » Alors il demanda, « Comment cela se fait-il ? Même des sœurs m'embrassent, cela ne m'est jamais arrivé dans toute ma vie. » Vous savez que frère Branham était un homme de Dieu profondément sincère, très réservé dans la manière d'être, et cela l'étonna. Mais ce que je voulais dire est ceci. Il lui fut dit que dans le corps qu'il possédait là, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils attendent le retour du Seigneur et la résurrection. Ce n'est qu'alors qu'ils recevraient leur corps de résurrection et qu'ils pourraient manger et boire et participer aux noces de l'agneau. Il est parfois bon de connaître ces choses. Nous l'avons lu. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. On pourrait alors se demander, ils doivent alors d'abord ressusciter, et pourtant, il les ramène déjà avec lui, oui. C'est ainsi que l'on pourrait se poser la question. Les deux choses sont vraies. À présent, ils possèdent déjà un corps de gloire, mais au retour du Seigneur, ils recevront leur corps de résurrection, comme je viens de le dire, afin de pouvoir manger et boire et demeurer éternellement jeune. C'est pourquoi, pour revenir à cette parole, à ce sujet, si quelqu'un prétend que la révélation des sept tonnerres signifie que le Seigneur est déjà venu, alors nous lui enverrons le huitième tonnerre et nous lui dirons non et encore non. Cela se produira lorsque le Seigneur reviendra. Et vous le remarquerez, car cet appel viendra alors du ciel. Matthieu 25, le cri ne vient pas du ciel. Il retentit ici sur la terre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Mais ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, si nous lisons à partir du verset 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà. C'est ça que j'aime. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul aurait pu dire, ce que je vous expose ici, c'est l'ainsi parle le Seigneur. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Je poursuis la lecture. Nous, les vivants, restez jusqu'au retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Remarquez bien l'ordre. Lui-même descendra. Dans le texte original, il est question d'un ordre donné avec autorité. Il ne s'agit pas simplement d'un appel ou d'un cri. Il ne s'agit pas seulement de dire « il viendra », mais il viendra avec un cri d'autorité, accompagné de la voix de l'archange. Et chaque fois que je lis au sujet de l'archange Michel, je m'en réjouis car il tient fidèlement aux côtés du Seigneur. Vous savez, par exemple, dans Apocalypse chapitre 12, lorsque le fils mâle est enlevé, c'est Michel qui saisit le diable et le précipite sur la terre avec ses anges, et ainsi de suite. Dans Daniel chapitre 12, il est également dit, n'est-ce pas, que celui qui se tient comme protecteur des enfants de ton peuple, Daniel 12, verset 1. Chaque fois que je dis cela, je me réjouis de voir que certaines tâches sont confiées à d'autres. Le Seigneur, lui, accomplit son œuvre. Je l'ai probablement déjà dit ici. Notre Seigneur a réglé une fois pour toutes son compte avec Satan. Il n'y aura pas de deuxième combat entre le Seigneur et Satan. Michel suffit largement pour le saisir et lui dire, c'est terminé, une fois pour toutes, cela ne se reproduira plus. Oui, cela me réjouit. Imaginez-vous, si notre Seigneur, oui, qu'il vienne chercher sa bien-aimée épouse pour l'amener dans la gloire, et qu'au même moment éclate un immense combat dans lequel nous serions encore entraînés. Nous ne le voulons pas. Nous n'en avons pas besoin, non. L'archange Michel et ses anges combattent contre le diagron et les autres sont complètement vaincus. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ainsi Satan, l'ancien dragon, fut précipité sur la terre. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Et puis il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Verset 12, Apocalypse 12. Ainsi, le Seigneur lui-même descendra avec un cri d'autorité, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous serons, nous qui serons restés vivants, nous serons transformés et ensemble, avec eux, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Il y a une déclaration de Frère Branham, probablement dans le premier sceau. Je n'ai pas noté, mais je l'ai lu. Il compare cela à Joseph dans l'Ancien Testament et dit, pendant que l'époux est avec son épouse au repas des noces. Il descendra brièvement pour se révéler à ses frères, les 144 000. Et j'ai lu cela avec une profonde joie, avec un immense bonheur intérieur, car cela correspond parfaitement au témoignage des Écritures. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph laissa son épouse issue des nations, une païenne, dans le palais. Lorsqu'il se révéla à ses frères, personne n'était présent. Il était entièrement seul. Genèse 45, verset 1. Ni épouse, ni femme, personne. Il était seul. Alors il dit, je suis Joseph, votre frère. Verset 4, Genèse 45. Une fois cela, cette fois-là, il ne parla plus par l'intermédiaire d'un interprète. Avant, il parlait avec un interprète. Il s'adressait à eux par un interprète. Voyez-vous? Cette fois, ce n'était plus le cas. Ainsi en sera-t-il. Le frère Branham emploie l'expression « slip down », c'est-à-dire « descendre discrètement » pendant que l'épouse célèbre le repas de noces à la fin du ministère des deux prophètes, lorsque les 144 000 seront tous rassemblés sur la montagne de Sion, conformément à Apocalypse chapitre 14, alors, il se révélera à eux. Et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Et pleureront amèrement en disant, Seigneur, c'était toi que nous avons crucifié. Et il dira, rassurez-vous, soyez calmes. Tout est bien ainsi. Il fallait que cela arrive de cette manière, car maintenant j'ai deux choses. Une épouse glorieuse issue des nations et vous, mon Israël bien-aimé. Auprès de Dieu, il n'y a aucune erreur. Oui, on pourrait dire aux gens, tu as fait ça de mal, toi Pilate. Oh, tu as mal agi, mais non, tout s'est accompli exactement comme il le fallait. Mais si cela paraît terrible, tout est arrivé à cause de nous. Ils lui dirent, descends de la croix, Matthieu 27, 40. Mais à quoi cela aurait-il servi s'il était descendu? Il n'y aurait pas eu de rédemption. Il disait encore, il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Bien-aimé, tout cela est arrivé pour nous. En sommes-nous reconnaissants? Pouvez-vous désormais bien distinguer ces deux passages? Matthieu 25, c'est maintenant le temps de l'appel, le réveil, nettoyage des lampes, l'approvisionnement en huile, afin que rien ne manque. Cela se passe maintenant. Ici, sur la terre, parmi ceux qui ont été appelés par Dieu et qui attendent le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, en revanche, commence dans le ciel et non sur la terre. Le Seigneur descend du ciel avec un cri d'autorité, avec la voix de l'archange, avec la trompette de Dieu. Voilà la différence claire ou clairement établie. Quant à la révélation des 144 000, je m'en réjouis également de tout mon cœur. Dans Apocalypse chapitre 10, c'est le seul passage où il est question de la venue sans aucun accompagnement. Vous pouvez lire jusqu'à Zacharie 14. Le Seigneur, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Zacharie 14, verset 5. Très souvent, lorsqu'il vient, il est accompagné parfois des anges, parfois de l'épouse. Dans Apocalypse 19, le Seigneur apparaît sur un cheval blanc et les armées célestes le suivent sur les chevaux blancs. Sur la montagne de la transfiguration, il apparaît avec Élise et Moïse, tandis que Pierre, Jacques et gens sont présents. Parfois, il vient avec les anges. Il vient de différentes manières, à différents moments pour accomplir les différentes missions. Mais dans Apocalypse chapitre 10, il vient seul. Il vient seul en tant que l'ange de l'Alliance. Et lorsque j'ai dû expliquer cela devant tous ses frères, et j'espère que les cassettes enregistrées en Afrique du Sud circuleront, car, autant que je me souvienne, j'ai déclaré avec toute l'autorité que Dieu m'a accordée. Et j'ai dit, Apocalypse chapitre 10 de 1 à 6, n'est pas encore accompli. Ainsi parle le Seigneur dans sa parole. Alors un grand silence s'est installé. Oui, un grand silence. Il vaudrait mieux que beaucoup se taisent. Voyez-vous? Voyez comment tout est merveilleusement ordonné. Le Seigneur vient comme ange de l'Alliance vers son peuple Israël, au sujet duquel il est écrit, oui, à eux appartiennent l'Alliance, la loi, les promesses selon Romains 9, verset 4. Il vient maintenant, et ici il vient comme l'ange de l'Alliance dans Apocalypse 10, 1 pour dire, l'Alliance que j'ai conclue avec vous n'a jamais été annulée. Car il avait dit, je conclurai avec eux une nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur et tous me connaîtront. Jérémie 31, verset 33, Hébreux 8, verset 10. Ainsi, chaque chose trouvera sa place. Ce qui me réjouit particulièrement, c'est aussi le fait qu'il vient ici avec un livre ouvert, c'est-à-dire après l'ouverture des sceaux. Auparavant, dans Apocalypse 5, le livre était encore fermé et scellé de 7 sceaux. Mais ici, dans Apocalypse 10, il vient vers les 144 000 avec le livre ouvert. Apocalypse 10, verset 2. Autrement dit, après l'ouverture des sceaux, après l'achèvement de l'Église issue des nations, lorsque le nombre complet d'Israël sera réuni, il se révélera à eux, alors viendront la rupture de l'Alliance, la persécution, la grande détresse, le temps des martyrs, et ce sera la seconde moitié des 7 dernières années. Dieu a tout parfaitement ordonné. Je voudrais encore dire ceci pour conclure. Lorsque le Seigneur descendra comme le propriétaire légitime de toute la création et qu'il posera un pied sur la mer et l'autre sur la terre, alors il rugira comme un lion. Et c'est alors seulement que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Apocalypse 10, verset 3. L'avez-vous tous lu? Voilà l'ordre divin. En Afrique du Sud, je me suis permis de dire, les 7 tonnerres ne retentissent pas parce que les prédicateurs crient au sujet des 7 tonnerres. J'ai dit, leur voix ne retentira que lorsque mon Seigneur, comme ange de l'Alliance, celui à qui appartient tout le pouvoir, dans le ciel et sur la terre, ce n'est que lorsqu'il descendra comme propriétaire légitime et posera ses pieds sur la terre et sur la mer, puisqu'il les a créés, et il lèvera la main et dira, il n'y aura plus de délai, selon Matthieu 28, 18, Apocalypse 10, verset 2, 5, 6. C'est alors que les 7 tonnerres feront entendre leur voix, pas un jour avant, pas un jour après. Et j'espère que tous ceux qui auront encore affaire avec des personnes enseignant cette doctrine, j'espère qu'ils seront désormais capables de leur donner une réponse claire. En ce qui concerne le ministère de Frère Branham, permettez-moi, avant de terminer, de lire cette merveilleuse parole du livre des Rois. Au cours de ce voyage, j'ai de nouveau été profondément frappé de voir combien son ministère a été déformé et combien de directions étrangères on a voulu, dans quelle direction étrangère on a voulu l'entraîner. Lorsque nous considérons le ministère de Jean, nous voyons qu'il était un ministère, un ministère de la parole, un ministère de préparation, ouvrant simplement le chemin au Seigneur, comme il est écrit, préparer le chemin du Seigneur. Aucune extravagance, aucun mysticisme, mais une proclamation claire de la parole. Il en fut de même du ministère d'Élie dans notre temps. Il nous a ramenés à la parole originelle, aux enseignements bibliques purs, afin que tout soit rétabli dans l'ordre divin avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, il est écrit dans 1 Roi 18, une parole que nous connaissons tous, 1 Roi 18, verset 30. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et le peuple s'approcha de lui. Il rétablit l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Et au verset 31, il prit ensuite 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Selon le nombre des tribus de Jacob, à qui cette parole du Seigneur avait été adressée, Israël sera ton nom. Nous en avons déjà parlé. Je veux seulement souligner, si frère Branham était bien celui que Dieu avait chargé d'accomplir la mission annoncée dans Malachie, chapitre 4, verset 5, alors cette mission, oui, Malachie 4, 5, voici je vous enverrai Élie le prophète. Alors, cette mission était un mandat divin directement lié au plan du salut, au dernier chapitre de l'histoire du salut dans lequel nous vivons aujourd'hui, à la veille du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec frère Étienne. Nous avons parlé des temps de la fin. Et soyons honnêtes, ne voyons-nous pas de nos propres yeux comment tout s'accomplit? Ne voyons-nous pas cette puissance mondiale, cette puissance prophétique prendre forme? Toutes les autres grandes puissances s'effritent. Elles perdent leur influence, la grande puissance, les grandes puissances sont devenues les petites puissances. Qu'est-ce qui s'élève aujourd'hui? Le grand empire mondial, l'empire romain, celui qui n'était plus, et qui sera de nouveau, avec cette tête qui fut blessée et mort, puis guérie. Nous voyons tout cela. Et lorsque nous pensons que notre bien-aimé frère Branham, avec seulement 7 années de scolarité et d'école, permettez-moi de le dire ainsi, en 1932-1933, il n'était certainement pas simple pour lui de déclarer qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler deviendrait dictateur en Allemagne, en Italie. Ce sera Mussolini. Puis il ajouta, 3 ismes apparaîtront, fascisme, nationalisme, socialiste et le communisme. Et puis il a encore dit, avec une précision qui montrait clairement que Dieu le lui avait révélé, il a dit, les 2 premiers finiront dans le communisme, ils y aboutiront. Et c'est exactement ce que nous avons vu maintenant. Les 2 premiers appartiennent déjà au passé. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Frère Branham fit alors une courte pause et puis il dit, tout à la fin, le communisme sera soumis à Rome et tout tombera sous l'autorité de Rome. Qu'avons-nous vu? Je l'ai déjà dit ici. Il n'a rien manqué de mieux au communisme mondial que ces 72 heures pendant lesquelles Gorbatchev fut retenu ou arrêté. Depuis ce moment-là, le monde entier a été guéri du communisme. Et si aujourd'hui quelqu'un pense encore, comme Fidel Castro, qu'il peut continuer, il ne fait plus que jouer un peu le violon. Mais bientôt, il n'aura plus de violon. Non, comme je l'ai dit, cette époque est tout simplement révolue. Et qu'avons-nous entendu? Il a été annoncé officiellement par le pape à cette époque. Le pape a fait savoir que Bruxelles ne serait pas seulement le siège de l'Europe. L'école de journalisme du Vatican doit également y être transférée de sorte que tout près du siège principal à Bruxelles, le Vatican établira son propre institut de formation. Cette information a été diffusée officiellement dans les médias. Et tous ceux qui sortiront de cette école journalistique du Vatican deviendront de véritables rédacteurs et des rédactrices, de véritables journalistes formés selon les règles de cet établissement. Mais ce à qui cela coûtera cher, ce sera nous qui discernons toute cette réalité. Mais permettez-moi encore de dire quelque chose avant de conclure. Si Dieu ne nous avait pas révélé ces choses, nous ne les connaîtrions pas. Et si Dieu n'avait pas envoyé Frère Branham, je ne comprendrais pas toutes ces relations entre ces événements. C'est pourquoi je suis profondément reconnaissant à Dieu de ce qu'il a envoyé en notre temps un de ses plus grands prophètes. Et je remercie le Seigneur d'avoir éclairé mon intelligence si limitée afin que je puisse voir, comprendre et recevoir toutes ces choses avec autant de clarté. Et parfois, il m'est aussi donné de la transmettre de la même manière afin que d'autres puissent aussi le voir, l'entendre et simplement savoir que voilà où nous sommes aujourd'hui. Et lorsqu'Apocalypse 17 dit que la prostituée est assise sur la bête, Apocalypse 17, 3, alors c'est exactement ainsi. Ce n'est pas le pouvoir politique qui monte, qui chevauche le pouvoir religieux pour le diriger. Non, c'est l'inverse. Le pouvoir religieux chevauche le pouvoir politico-économique et tient les rênes entre ses mains. De telles images parlent d'elles-mêmes, mais elles doivent simplement être comprises. Celui qui cherche naturellement l'Antichrist à Honolulu ne le trouvera pas, mais celui qui le cherche là où il se trouve le trouvera rapidement. Oui, nous sommes simplement reconnaissants à Dieu pour cette journée, pour la clarté de sa parole. Et je suis toujours de nouveau reconnaissant et profondément frappé de constater qu'il n'y a jamais eu une époque semblable à celle-ci, jamais, où le Saint-Esprit révèle, rassemble, éclaire et montre les choses avec une telle clarté. Nous pouvons déclarer avec assurance, le Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et nous avançons de clarté en clarté, de connaissance en connaissance, de révélation en révélation. Loué soit le nom du Seigneur. Ça, c'est le chemin du Seigneur. Maintenant, il nous reste encore à nettoyer un peu les lampes, à ajouter encore un peu d'huile ici, un peu plus là, afin qu'il ne nous manque de rien lorsque le Seigneur viendra, mais que nous ayons des lampes allumées et des vases remplis d'huile. Révélation, révélation de l'Esprit, afin qu'elle coule continuellement en nous, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. À vous tous qui pensez à moi dans vos prières ou qui avez pensé à moi pendant le voyage missionnaire d'à peu près 3 semaines, je vous remercie. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Amen. Prière. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta présence. Tu es au milieu de nous, ô Seigneur. Tu nous as bénis. Tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures. Tu peux nous parler, oui, par Moïse et par tous les prophètes, par tous les évangiles et tous les épîtres, et nous te comprenons. Alléluia. Seigneur, mon cœur est profondément ému pour te remercier aujourd'hui. Nous ne nous sommes pas assis aux pieds d'un grand professeur ou d'un enseignement d'école biblique, mais à tes pieds, Seigneur, c'est toi qui nous parle. Et chaque fois, nos cœurs brûlent au-dedans de nous, car ta parole est merveilleuse et que les choses s'accordent si parfaitement. Bien-aimé Seigneur, les hommes n'auraient jamais pu accomplir cela. C'est toi qui as tout disposé. Nous n'avons rien à interpréter, rien à faire correspondre artificiellement. Tout s'accorde, tout est vrai, tout s'accomplit devant nos yeux. Bien-aimé Seigneur, agis encore dans ton Église, selon ce qui est nécessaire. Accorde-nous un véritable réveil avec un cri profond et puissant. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Seigneur, que nous puissions nettoyer nos lampes, que nous puissions remplir nos vases d'huile. Ô Seigneur, nous désirons être remplis du Saint-Esprit, de ta plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Tu nous as donné par ton Esprit la manne cachée, la nourriture vivante. Aujourd'hui aussi, tu as été avec nous dans toute simplicité. Et pourtant, avec une telle puissance. Bien-aimé Seigneur, nous te prions maintenant aussi pour tous ceux qui, dans les cinq pays d'Afrique, ont entendu ta parole. Environ 7000 personnes, ou 8000 personnes au total. Dieu fidèle, là aussi, ta parole ne retournera pas à vide et sans effet à toi, mais elle accomplira ce pourquoi tu l'as envoyée. Bien-aimé Seigneur, arrache les tiens de toute confusion. Ô Seigneur, affermis-nous solidement dans ta parole. Accorde-nous cette grâce. À toi, Seigneur fidèle, nous rendons grâce pour Golgotha, pour le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé pour nous. Rédemption accomplie. Elle est accomplie. Bien-aimé Seigneur, reçois le remerciement, la reconnaissance et l'adoration. Bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui, particulièrement les frères et sœurs Kupfer. Seigneur, sois avec eux. Également les autres, tous les autres qui sont en vacances, sois avec eux. Bénis également tous les frères et toutes les sœurs qui écouteront ces cassettes. Nous sommes intimement unis avec toi et avec tous les tiens. Ô grand Dieu, ramène-nous au premier amour, aux premières œuvres, à l'état de la première Église. Que cela soit le résultat du message divin et du ministère que tu nous as accordé dans cette génération. Bien-aimé Seigneur, je te remercie encore une fois pour tout dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus. Amen.